Bonjour et bienvenue à ce 12e épisode de Partir en affaires, le podcast de Coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on jase d'un sujet extrêmement intéressant qui est quitter la grande entreprise pour se partir en affaires. Et j'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneurs d'une grande lumière. Ils sont lumineux, ils sont resplendissants et ils sont extrêmement généreux dans leur présence sur les réseaux sociaux. J'ai nommé Josiane Lemay et Steve Jutras. Bonjour à vous deux.
Bonjour à toi.
Salut Mathieu.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez une histoire avec un parcours qui est extrêmement intéressant et dans lequel il y a plein de belles petites pépites d'or qui peuvent être extrêmement utiles pour les gens qui nous écoutent. Et avant toute chose, avant d'embarquer dans le vif du sujet, on va aller zioter un peu vos profils LinkedIn pour mieux vous présenter. Donc, Josiane, coach professionnel, tu as écrit « Je stimule les gestionnaires par des prises de conscience afin d'aligner les actions qui les mèneront vers la réussite tout en considérant leur bien-être ». J'aime ça quand toute la valeur de ce qu'un entrepreneur fait tient dans deux, trois lignes. Je trouve que c'est un très beau résumé. Et Steve, consolidateur de votre ADN dans votre entreprise, également coach professionnel, et vous avez tous les deux cofondés Effigie Coaching. Pouvez-vous nous présenter très brièvement ce que vous faites chez Effigie et avant d'embarquer justement dans ce qui vous a amené à créer cette entreprise-là?
Tout à fait. Ben, dans le fond, Effigie, c'est une firme de coaching, vraiment le mode coaching, c'est notre approche. On a développé notre propre approche aussi à deux, ce qu'on appelle le Effigie, peu commun. Donc, on coach vraiment sur deux niveaux. On va aider les gestionnaires et les entrepreneurs principalement, gestionnaires grandes entreprises, PME, et les entrepreneurs dans leur posture de gestionnaire en général, leur posture de leader aussi. Donc, on va faire un parallèle pour travailler avec eux individuellement, leurs propres limites, leurs propres objectifs, là où ils veulent se dépasser. En même temps, on va amener du background technique, justement, de notre expertise en grande entreprise à tous les niveaux. Sur les aspects relationnels, opérationnels et politiques qu'on retrouve en entreprise pour les aider à accomplir nos objectifs.
OK. Et Josiane, où se trouvent les entrepreneurs dans leur parcours quand ils viennent faire affaire avec vous?
Bien, j'ai envie de dire qu'ils peuvent se trouver à différents niveaux. Puis, tu sais, le coaching, c'est ça qui est intéressant, hein? C'est qu'on prend le gestionnaire, on prend l'individu, on prend l'organisation, d'où ils partent. Fait que j'ai envie de dire, ça se fait à plusieurs niveaux. À partir de là, on bâtit sur un objectif qu'ils veulent atteindre.
Laisse-moi préciser ma question dans ce cas-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que je sais qu'à ce moment-ci, j'ai besoin de vos services? C'est quoi les symptômes?
Je dirais que ça peut être plusieurs. Encore là, est-ce que c'est relatif à une personne ou à une entreprise? On parlait beaucoup d'alignement tantôt. Si c'est quelqu'un qui est un individu en soi, c'est qu'il y a quelque chose généralement qui ne fait plus de sens. Et ça, c'est un des premiers symptômes que j'ai envie de dire, là, qui vient que les gens se repositionnent ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui les bloque ou qui les empêche de passer à un prochain step, à un prochain niveau. Et c'est souvent comme ça aussi pour les entreprises, que ce soit entrepreneur, que ce soit gestionnaire ou même une équipe. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas, qu'on a de la difficulté à atteindre un objectif et que là, on a besoin de se repositionner.
Je dirais que c'est beaucoup. Je compléterais, dans le fond, en étant. Fait que tu vois qu'il y a un aspect vraiment personnel là-dedans, mais il y a un aspect aussi plus technique. Quelqu'un, un entrepreneur qui veut, qui est bloqué dans sa croissance, souvent, c'est qu'on va voir que les gens sont très bons dans leur opération à eux, peu importe le domaine. Mais dans la gestion, tout ça, tous les paramètres de gestion, c'est là qu'il y a des fois des petites lacunes, des notions qui n'ont pas été nécessairement explorées, puis ça fait en sorte que ça freine la croissance. Nous, on arrive, puis on vient encadrer la globalité de tout ça pour aider l'entrepreneur, principalement.
Merci pour le beau résumé. Maintenant qu'on sait ce que vous faites, j'aimerais ça qu'on explore d'où vous venez, parce que justement, le thème, c'est quitter la grande entreprise pour se partir en affaires. Donc, on devine que ça a été votre cas. En plus de ça, ben, vous êtes aussi un couple, vous vous êtes rencontrés justement dans la grande entreprise. J'aimerais ça un peu que vous racontiez les semences qui ont commencé à germer pour vous donner l'intuition de partir de comme salarié? Racontez-nous un peu d'où ça a démarré.
Si on parle de grande entreprise avant d'arriver à notre histoire de cours pour savoir qui a approché qui, maintenant, moi, je viens, oui, d'un background plus GRH et tout ça, puis après ça, j'avais migré vers le volet opérationnel en entreprise. Autant PME que très grande entreprise, moi, j'ai vraiment eu un déclic à un moment donné où, quand je disais tantôt ça faisait plus de sens, bien, pour moi, j'étais là. Donc, j'avais vraiment quelque chose avec l'expérience et tout qui m'éteignait. Puis pas parce que les grandes entreprises, c'est pas bon ou parce que les PME, non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne me correspondait plus. Puis principalement drivé par un besoin de m'éloigner de ce qui ne me correspondait plus, puis aller vers ce qui collait à moi, ce qui faisait du sens pour moi, où j'avais vraiment une envie de créer quelque chose, de partager, de bâtir ma propre identité à travers ça. Puis, de partager, je pense, beaucoup à ce niveau-là. Puis, tu sais, d'avoir cette flexibilité-là de faire ça.
Et brièvement, tu faisais quoi dans ton ancienne vie?
J'ai été en ressources humaines principalement. Je suis CRH de métier. Donc, j'ai passé là, peut-être une douzaine d'années là, dans des postes GRH en entreprise. Autant dans du monde corporatif, distribution, production et tout ça. Puis, pour après vraiment migrer dans des équipes de direction-gestion pour finalement finaliser ma carrière dans le domaine principalement brassicole comme directrice qualité. Donc, je suis vraiment la personne GRH qui a bougé à la tête de département d'opération. Puis, ça a été principalement mon background et à l'intérieur de ça où finalement, ben je me suis spécialisée comme coach professionnel principalement côté programmation neurolinguistique, là.
Parfait. Puis toi, Steve, d'où tu viens?
Moi, je suis vraiment le gars d'opération pur, de résultats, de tâches. J'ai grandi dans le monde de la distribution, logistique. Et puis, j'ai géré les grandes équipes, évidemment, en tant que superviseur premier niveau, par la suite gérant de relève, direction de centre de distribution. Et évidemment, on est très orienté process. Très orienté sur l'amélioration, le lean management, etc. Tout ça est très populaire. Je te dirais qu'à un moment donné, la routine opérationnelle, à force de l'amener à quelques pourcentages, dixièmes de plus tout le temps, est devenue une routine qui me stimulait moins. Puis, j'ai bifurqué vers la gestion de projet, de là, le PMP, entre autres, et sur des projets immobiliers, des projets de gestion de changement. Où l'intégration de l'humain qui s'occupait des gens pour le succès du projet prenait une place très importante. Et la gestion de l'équipe, aussi délégation, mobilisation, était un facteur clé dans la réussite de ces projets-là. Et là, j'ai trouvé que le niveau d'accomplissement était encore plus intéressant. Puis en gestion de projet, il y a un début, il y a une fin. Puis après, on passe à un autre projet. Ça m'allumait énormément.
Je veux juste que cette partie-là, on essaie de la faire la plus courte possible parce que je veux vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, vos parcours se sont croisés sur le plan professionnel d'abord.
Oui.
Vous étiez où à ce moment-là? Chacun, on parle de quand à peu près?
On parle de 2012. On était en grande entreprise chez Human. Puis, partenaire d'affaires, moi de mon côté, à direction du centre de distribution. À l'époque, et puis on avait une chimie professionnelle. Donc, dans notre thinking, dans notre approche, autant process résultat que prendre soin des équipes puis faire évoluer, il y avait vraiment un côté stratégique où on se rejoignait. On a quitté chacun de notre bord, l'éthique qui était très importante pour nous, puis c'est en dehors qu'on a appris à se connaître par la suite, puis on a fini par former un couple.
Exact. Puis on a vraiment fait des chemins séparés après, tu sais, en entreprise et tout ça, mais on se disait tout le temps, tabarouette, ça serait le fun, on retravaille ensemble. On connaît pas nécessairement l'ampleur de la dynamique d'une gestion de couple en affaires. C'est sûr que ça, on l'a appris dans le temps. Mais c'est par la suite que nos chemins, on a décidé de fonder cette entreprise-là avec tout ce que ça impliquait. Hein,
Donc, entre le moment où vous êtes croisés pour la première fois et le moment où vous avez fondé une entreprise, il y a 8 ans qui passent. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que, OK, là, salarié, être en entreprise, c'est plus pour moi, individuellement, chacun d'entre vous, ça a été quoi ce déclencheur-là?
Moi, j'ai fait le saut avancé à la base comme travailleur autonome. Donc, j'ai quitté la grande entreprise là, peut-être un mois, 6-7 mois avant, où j'avais atteint mon fond de dire « je ne suis plus bien mm-hmm. ». J'ai commencé vraiment à me dire, puis à me positionner, on parle d'alignement beaucoup en coaching, hein, puis me dire mm-hmm. « qu'est-ce que ça me prend pour être bien ?» où moi, je suis responsable, puis ça va être quoi mon plan d'action pour m'y rendre, et c'est tout. Puis...
Fait que ce que j'entends, c'est que tu avais déjà l'outil de dire, d'agir sur le « ça va plus bien ».
Ouais.
Parce que ben, il y a beaucoup de gens qui sont plus heureux dans leur entreprise, comme salariés au sein d'une entreprise, puis qui n'agissent pas ou qui ne savent pas quoi faire là-dessus, qui ne connaissent pas non plus les questions à se poser ou qui se résignent à dire « ben là, j'ai une hypothèque à payer, j'ai des enfants à nourrir, etc. » Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à le faire, le saut, à dire « ok, non, je quitte, je me lance dans cette zone-là d'inconnu? »
Premièrement, je pense qu'une des très bonnes questions à se poser quand on n'est plus bien, c'est de se poser la question « combien de temps encore et jusqu'où on est prêt à ne plus être bien? Mm. » C'est se poser la question du vrai, c'est du pire scénario, là. Je vais me rendre jusqu'où? Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est en train de détruire chez moi et autour de moi? Parce que, tu sais, on était déjà en couple, bon, petite fille à la maison, c'est quoi toute cette implication-là? Puis, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite. Mais de commencer à se positionner, par contre, je pense que c'est une des premières choses à faire. Puis encore là, tu n'es pas obligé de faire tous les changements en même temps, mais de te dire, c'est quoi tes options?
Mm-hmm. Ce que j'entends, c'est de la gestion de risque à quelque part. C'est des deux côtés. Autant, c'est quoi le pire et le meilleur scénario qui risque d'arriver si je reste comme salarié? Et aussi, c'est quoi le pire et le meilleur qui risque d'arriver si je me lance à mon compte?
Oui.
Bien, c'est un rêve aussi qu'on chérit ça depuis longtemps. Moi, c'est la flamme d'entrepreneur est en dedans de moi depuis des lunes, puis même en grande entreprise, je gérais mes départements comme ma mini-entreprise. Donc, c'était clair, net et précis que ça allait arriver un jour. On en parlait. La COVID a été vraiment le facteur, comme pour bien des gens, rendus assis à la maison à se demander qu'est-ce qui arrive sur la planète. On a craché le projet sur papier, puis on s'est dit « it's now or never ». C'est comme ça que ça a parti.
Donc, on a jasé un peu de votre background, Josiane et Steve. On a jasé un peu de ce qui vous a stimulé et des réflexions que vous avez eues pour partir en affaires. Maintenant, vous choisissez, ben, je comprends que Josiane, ça a été un peu plus tôt, mais vous avez fondé votre entreprise à quelques semaines ou quelques jours d'une pandémie mondiale. Donc, déjà, fonder une entreprise, c'est beaucoup de choses. On porte 1 million de chapeaux. Là, tout d'un coup, il faut porter tous les chapeaux, autant la gestion, la comptabilité, le marketing, la prospection, etc. Comment vous avez géré ce grand projet, cet immense projet, ce nouveau bébé finalement qui est arrivé dans votre vie?
On l'a géré de la même façon qu'on gérait justement en entreprise. Plan stratégique, tout simplement. On néglige l'importance d'un plan d'affaires parce que c'est long, parce que c'est plate, mais ça a vraiment son importance pour se donner sa propre idée, sa propre voie de vers où on veut aller. Vision, mission, valeur. Ça aussi, des fois, on veut partir vite, on a des opportunités, on les prend. Mais si ça, c'est pas clairement établi, surtout quand on est deux, ben on risque de passer à côté ou se mettre à prendre n'importe quoi ou faire les choses selon des recettes différentes. Donc, on est allé trouver notre couleur là-dedans. On a pris le temps de l'établir. Puis par la suite, ben, on s'est donné des rôles. Évidemment, moi, de par le background que j'ai aussi, puis quelques études, comptabilité, tout le back office, le soutien opération, tout ça, j'ai ramassé ça. Et Josiane, frontline avec clients et nos opérations de coaching. Puis on a mixé, on s'est rejoint entre les deux selon les projets qu'on gagnait au fur et à mesure.
Est-ce qu'il y a des ressources externes? Est-ce qu'il y a des collaborateurs, des outils que vous êtes allés chercher? Tu parles de plan d'affaires. Monter un plan d'affaires, ça ne s'improvise pas nécessairement. Quelles sont les ressources que vous avez été chercher?
Incontestable. N'importe quel entrepreneur, puis je vous dis, là, des fois, on se dit, on n'a pas l'argent, on n'a pas le budget, c'est une question financière. C'est surprenant ce que des gens spécialisés dans leur domaine, quand on est limité ou bloqué à quelque part, peuvent nous apporter comme valeur par la suite, peu importe le coût. Donc, nous, le développement des affaires, on a touché au domaine de vente, évidemment en entreprise, mais on n'en a jamais fait. Donc, c'est la première porte où on est allé cogner. Le premier qui est Mike Monsef, vraiment très, très, très intéressant, qui nous a aidé à montrer nos profils LinkedIn comme des vrais profils de LinkedIn actifs et non un CV comme on avait l'habitude de faire. Par la suite, on a fait affaire avec tellement de gens au travers. La communauté d'entrepreneurs, quand on la découvre, on pense qu'on est tout seul quand on commence, mais quand on se rallie aux entrepreneurs, on est toute une gang qui s'entraide selon le domaine et l'expertise. Donc, dans la vidéo, dans tout ça, on est allé chercher ces spécialistes-là.
Je pense qu'il y a une grosse phase aussi en termes de se positionner, c'est-à-dire quel outil on a besoin par rapport à ce que nous, on n'a pas. Tu sais, on est vraiment allé chercher des gens côté financier, des gens qui au niveau légal, que ça va nous prendre. On est allé chercher des mentors. Ouais. Puis ne pas avoir peur d'aller chercher des mentors qui font la même business que nous, mais qui ont déjà plusieurs années d'expérience ou qui sont à la retraite, tu sais, pour comment eux se sont partis, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui ferait différent avec du recul. Nous, les premiers mois, là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup ça. Tu sais, que ce soit les sites du gouvernement au niveau des plans d'affaires, que ce soit
les
subventions, que ce soit de travailler avec Emploi Québec, que ce soit de travailler avec justement notre banque qui, lui, la personne va nous aider à peaufiner notre plan d'affaires.
La clé du succès pour le démarrage, ça a été d'aller créer des partenariats, d'écouter et de ne pas essayer de se prendre pour ce qu'on n'était pas.
J'entends que vous avez reçu beaucoup de générosité de la part des entrepreneurs, des professionnels, puis ça me fait penser à votre présence sur LinkedIn parce que vous êtes maintenant en processus de redonner. Très rapidement, vous êtes fait une belle place sur LinkedIn, entre autres justement grâce à la vidéo puis aux entrevues que vous faites sur le leadership et le coaching vous avez parlé de synergologie. Bref, vous allez vraiment dans des beaux sujets qui apportent de la valeur aux gens. Donc, vous êtes c'est ça qui est le fun avec LinkedIn. On reçoit et on redonne beaucoup. Juste avant de continuer un peu dans votre histoire, j'aimerais ça qu'on revienne aussi sur le fait que de partir en affaires, c'est une chose. Partir en affaires avec une personne, avec des associés, c'est une chose aussi. De partir en affaires en couple, c'est aussi un autre défi. Puis c'est vrai que vous avez un historique professionnel, fait que ça a dû vous aider. Mais quels sont les est-ce que vous avez mis des lignes, est-ce que vous avez mis des paramètres qui vous aident à prendre soin de vous en tant que couple, en tant qu'amoureux, et à prendre soin de vous en tant que partenaire d'affaires pour éviter que les accrochages d'un bord puissent déborder sur l'autre? Ou bref, parce qu'il y en a des risques de se lancer en affaires en couple.
On mentirait de dire qu'à un moment donné, on n'a pas vagué entre notre couple et devenu une business et vice-versa. Moi et Steve, on a une très grande force à la base commune, qui est beaucoup au niveau de la transparence, la communication. Et ça, définitivement, l'écoute, la transparence, la communication, l'expression de nos besoins devient primordial. Se positionner en tant que, on parle, nous, beaucoup de posture. Moi, j'ai une posture d'entrepreneur, j'ai une posture de cofondatrice, j'ai une posture de coach, j'ai une posture de maman, j'ai une posture de conjointe et vice-versa. Mais quand est-ce que je suis dans quelle posture? Puis, ce qui m'appartient dans cette posture-là versus ce qui ne m'appartient pas. Mais tu sais, ce qu'on vit en termes de défis de couple, j'ai envie de dire qu'on vit en entreprise aussi, en termes d'équipe, c'est les mêmes principes. Lorsqu'on est vraiment dans l'ouverture, dans l'échange, dans le partage, quand c'est pas le bon moment d'adresser des choses, il faut avoir l'humilité, j'ai envie de dire l'intelligence un peu, c'est pas le bon moment. Faut en reparler, faut le réadresser. Prenons un temps de recul, prenons le temps d'y penser. Puis si on n'arrive pas à s'entendre, ben quel juste milieu on peut trouver? Je pense que c'est...
Puis la confiance, on parle de ça, il y en a beaucoup qui nous approchent là-dessus, mais quand on travaille, on travaille. Oui, la complicité, souvent on nous en parle, mais on est en mode business. et puis ça ne paraît pas. Et on a pleine confiance. Faut pas avoir peur de se dire les vraies choses puis de penser à comment ça serait si le couple n'existait plus quand on démarre un business. Dès le départ, établir les paramètres, s'assurer que la vision est commune. Puis après, ben, c'est l'habileté de faire la part des choses qu'on a appris pendant l'année. Surtout dans un travail à la maison où on vit, on travaille, puis on éduque en plus les enfants parce que la COVID nous les retourne à la maison.
Ben, c'est ça.
Exactement.
C'est ça, tous les couples sont mis à rude épreuve, pardon, depuis un an. Et donc, en plus, votre entreprise a démarré il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est quand même, j'ai l'impression que c'est un quadruple défi que d'avoir eu à jongler. Quel âge ont vos enfants?
10 ans et demi, elle va avoir 11 ans. C'est ma fille, on est en
famille.
Les fameuses familles reconstituées. Ouais,
avec un bon niveau d'autonomie quand même. Vous n'aviez pas de... Évidemment, parlant de COVID, depuis un an, donc, les créateurs de contenu se sont multipliés sur toutes les plateformes, mais on va parler évidemment de LinkedIn. Et en particulier, l'offre de contenu vidéo a explosé. Moi, ça va faire bientôt 5 ans que je vlogue, puis j'ai vu tranquillement les gens commencer à utiliser de plus en plus la vidéo sur LinkedIn. Et là, on commence vraiment à rentrer dans un bel âge d'or où les gens créent vraiment du beau contenu de qualité. De plus en plus, il y a des sous-titres. De plus en plus, il y a un souci de prendre soin de la structure du contenu. C'est plus juste des gens qui font du jogging puis qui parlent à la caméra ou qui parlent dans leur auto. Comment vous avez décidé d'approcher? Parce que moi, c'est comme ça que je vous ai connu, c'est avec votre contenu vidéo. Comment vous avez décidé d'approcher votre présence de façon générale sur LinkedIn?
C'est d'un, trouver son identité. En effet, moi, j'ai regardé et observé beaucoup dans les premiers temps qu'est-ce qui se faisait. Je me plaçais où, moi, là-dedans? Des essais. En toute humilité, là, j'ai fait des pauses traditionnelles, puis je sais des choses pour me trouver là-dedans personnellement. C'est ce qu'on a trouvé. Au départ, on était l'entreprise, puis on gérait la page entreprise, habituée avec ce mindset-là en grande entreprise. Puis après, on a découvert que c'était peut-être mieux d'y aller avec notre image personnelle, chacun pour soi, mais pour les intérêts communs qu'on prône, puis nos valeurs et missions. Puis c'est d'aider les entrepreneurs, puis d'innover aussi dans les façons d'aider. Donc, c'est pour ça que vous voyez des partenaires où on a fait de la psychométrie, où on a fait de la posturologie, où on a fait de la synergologie avec Manuel, entre autres. Une belle découverte. Le monde entrepreneur, on le dit, ça nous a fait tisser des liens, ça nous a fait bonifier notre approche et ajouter de la couleur au travers ce qui est le core habituel de gestion. Puis nous, ben, c'était notre mindset. On se dit, qu'est-ce qu'on veut donner au gestionnaire, à l'entrepreneur avec qui il peut partir, des petits trucs comme ça, et quel échange on peut créer dans la communauté aussi pour aider. Je pense qu'on a trouvé notre couleur, on l'a démontré. Et on fait des thématiques mensuelles, puis après, ben, on lance ce qu'on a à offrir là-dessus.
Tu sais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'oser aussi. La confiance là-dedans vient en essayant des choses, en trouvant son aisance. T'sais, pour l'instant, on fait ce qu'on fait là. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça va être la même chose et l'année suivante. Il faut avoir cette humilité-là aussi de se remettre en question et de dire, ça colle pas encore à nous, on veut faire autre chose. Ben, c'est comme ça aussi que la business, elle évolue.
Gut feeling, Mathieu. Les vidéos que vous voyez, là, c'est nos partenaires et une autre collègue, Caroline Morin, et U-Formation, qui a fait partie de son entreprise. On voulait l'aider. C'est à partir de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble.
C'est ça.
Et de là, on a rejoint tout le monde, puis on a mis le projet sur la table, puis ça s'est concrétisé. Ça s'avère, en tout cas, je crois, le retour qu'on a, des vidéos intéressantes qui donnent des bons trucs aux gens aussi, et qui fait voir toute la communauté qu'on a tissé ensemble.
Ben justement, un point en commun que vous partagez, puis qu'il y a beaucoup de gens qui partagent sur LinkedIn, on a vraiment un beau petit village LinkedIn où on voit justement des David Quentin, Amokan de Marie de ce monde, qui sont beaucoup dans des valeurs de générosité, d'entraide et de communauté. Donc, pouvoir contribuer à sa façon à faire grandir et enrichir la communauté entrepreneuriale. Et ça me fait penser à justement un des conseils que vous m'aviez écrit en préparant l'entrevue. Vous avez écrit « Identifier une mission et des valeurs qui nous ressemblent et qui sont en lien avec notre vision, tout le reste deviendra plus clair. » C'est un sujet qui est revenu à quelques reprises à partir en affaires. J'aimerais ça que vous nous en parliez du processus d'identifier d'abord votre mission, vos valeurs, puis comment on fait ça à deux? Comment on identifie ça, comment on fait cet exercice-là à deux?
C'est une belle histoire. On s'est vraiment promené au travers de ça. Pour nous, la vision était claire. C'était une firme. C'était du coaching. C'était du coaching global. Oui, de la gestion, mais prendre soin des gestionnaires personnellement, aller jusqu'à la santé aussi, bien-être. C'est pour ça qu'on a développé cette branche-là spécifique qu'on offre dans le coaching intégral. Donc, ça, c'était clair. Puis, dans 10 ans, on se voit où? On se voit pas seul, on se voit avec des gens. Il y a déjà des collaborateurs, mais on se voit à plus d'une vingtaine de coachs à aider, pas juste au Québec, ailleurs aussi. On a l'opportunité de le faire. En grande entreprise, on se voit aussi avec les entrepreneurs et les clients qu'on a en ce moment le reflètent. Donc ça, c'était clair. Maintenant, les valeurs, c'est facile de prendre la liste et de dire « oui, on les veut toutes, mais il faut spécifier. » Puis ça, on a été capable de l'établir bien correctement. Là où on a eu plus de difficultés, c'est la mission. Parce que quand tu crois en tes capacités, tu crois en toi, puis tu sais la valeur que tu peux amener aux gens dans une sphère qui est quand même assez large, comment tu peux ramener ça à une mission qui colle à tout le monde, mais en même temps, ça ne peut pas rejoindre tout le monde, à quelqu'un, à une communauté spécifique qui nous touche, nous, vraiment, ben crois-le ou non, on l'a changé à peu près 4, 5, 6 fois la mission parce qu'à chaque fois, je pense qu'on l'a, puis là, c'est pas ça, on la ressentait pas. La veille de tourner les vidéos, là David va aimer ça, un scotch à la main de mon côté, un rhum de l'autre bord, hein, brainstorm le soir, le flash est venu, c'est ça qu'on fait. On fait prendre conscience aux gens de leurs limites. Puis après, on active des changements marquants et durables. C'est ça qu'on fait. À chaque fois qu'on passe, c'est ce qu'on nous dit. Tu as changé quelque chose. Je ne serai plus jamais pareil. J'avais pas conscience de ça. Je viens de prendre conscience. Ben ça, c'est ce que tout le monde nous dit, peu importe le domaine confondu, peu importe le client.
Puis, j'ai envie de dire, c'est la question la plus dure à répondre. Puis, pour les gens qui sont en processus de le faire, il faut se poser la question. C'est ce que nous, on a envie de faire, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'on laisse aux gens ou aux entreprises? Ça, là, c'est quoi notre valeur réelle ajoutée? Avec quoi les gens vont repartir? Ça, c'est vraiment ce qui est le plus tough à trouver, à mon sens.
Surtout quand on est dans le service.
Ouais.
J'aimerais ça réentendre votre mission plus lentement. Parce que là, tu m'as répondu, tu m'as lancé un paquet d'informations, tu m'as donné ta mission là-dedans. J'aimerais ça qu'on l'entende.
Alors, écoute, je vais y aller lentement avec la phrase. Conscience des limites qui freinent votre croissance pour activer est important, un changement marquant et durable, une transformation marquante et durable en soi.
Puis le choix des mots, définitivement, j'imagine que, parce qu'une fois que vous avez une belle structure de mission, le choix des mots est quand même crucial. Entre tous les synonymes de Comment vous avez fait l'exercice de dire, OK, là, on... Puis tu parles d'intuition, OK, on l'a, mais est-ce qu'il y a... Y a-t-il une part de gut feeling, puis de... Est-ce qu'on la valide avec des gens ou on la valide juste entre nous?
Tu as tout compris, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu y crois. Puis on a fait le processus avec des coachs marketing, des mentors, on l'a fait virer de tout par tout le monde. Puis quand tu n'es pas capable de la pitcher correctement, c'est parce qu'à quelque part, il y a un mot, il y a quelque chose qui accroche, puis ça nous arrivait constamment. Quand on est tombé sur celle-là, on l'a incarné. Puis en l'incarnant, les gens font « ouais, je suis pas sûr, moi je suis sûr ».
Exact.
Et on revient sur les mots, parce que la transformation, c'est ce qu'on crée. Quand on passe, on ne laisse pas les gens pareils. Marquant, durable, ça reste dans le temps.
Puis, on parle dans le choix des mots, prendre conscience. à la base, on est dans une business de coaching. Il y a vraiment une réflexion qui se fait chez les gens. Il y a une autonomie qui se développe, de là de la durabilité aussi. Puis pour nous, c'est important, quand on parle de transformation durable, prise de conscience, qu'on soit en corporatif, qu'on soit en coaching individuel, qu'on soit en coaching santé et mieux-être, ça s'applique à tout. Et c'est les éléments qui sont communs à chacun de ces services-là. Fait que c'est pas des missions différentes, c'est exactement ça qu'on fait qui s'applique dans différents portfolios de services qu'on a.
Donc, notre entraîneur-chef qui coach des gens en entraînement physique, en posturologie, peut la répéter, c'est ce qu'il fait. Mm-hmm. Ainsi que tous les gens qui vont venir travailler avec nous.
Excellent. Fait qu'on s'enligne tranquillement vers la fin. J'aimerais ça que vous nous donniez, si on avait à résumer les quelques conseils que vous donneriez à quelqu'un qui est en entreprise et qui hésite encore à se lancer en affaires, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, des conseils ou des phrases d'inspiration?
C'est sûr que tout ça part de passion, quelque chose qui nous habite, puis on a décidé de se lancer en affaires dans notre passion, qui est d'accompagner les gens, qui est coaching. On a pensé souvent, on aurait pu choisir un produit, une innovation, partir une chaîne de production, ça ne nous allume pas. Pas parce qu'on est bon à le faire que ça nous allume. Donc, vraiment, rester dans ce qui nous allume, ce qui nous définit. Mm. On a parlé de la mission, des valeurs, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est très important, on y croit, ça aligne tout le reste et surtout nos clients. Puis les gens qu'on embauche aussi pour travailler avec nous, beaucoup plus clair pour eux de savoir où on s'en va ou qu'est-ce qu'on fait quand ça est aligné. Mmh. J'ai envie de te dire aussi qu'on a parlé, on ne peut pas tout connaître, surtout pas quand on est un entrepreneur. Tu l'as dit, on les porte tous les chapeaux, mais on ne peut pas tous les porter bien. Du TI, là, c'est... Non, j'aime mieux dealer avec quelqu'un qui sait, qui connaît ça, mais on a tous besoin... Je ne m'improviserai pas comme un gars de pays, puis je n'essaierai pas d'en vendre. Pareil pour du développement des affaires. Aujourd'hui, on le fait bien. Mais il y a bien des gens, un David, entre autres, LinkedIn, tout ça, qui peuvent le faire mieux. On aime mieux référer ces gens-là. Donc, rester entouré dans la communauté. Puis respecter sa valeur. Trouver sa valeur, la respecter aussi. Ne pas être en quête à genoux, à prendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Mm-hmm. S'il faut laisser passer des contrats, on le fait. Si on ne le sent pas, ce n'est pas nécessairement un gage de succès. Il faut penser plus long terme.
De là, l'importance d'une mission, d'une vision et des valeurs, parce que c'est là-dessus qu'on se base pour prendre des décisions pour des choses qui sont cruciales. Et quand on n'est pas certain, ben, on se ramène toujours à ça. À la fin de la journée, on a décidé de faire ça. Pourquoi? Est-ce que ça rentre en ligne avec ça? Oui ou non? Puis moi, j'ai envie de dire courage.
Ouais.
Avoir du courage, avoir de l'audace. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir peur, qu'on ne peut pas douter, qu'on ne peut pas vivre des émotions. Bien au contraire. Mais de passer par-dessus ça, de se laisser surprendre en même temps. Il y a plein de choses inconnues qui vont arriver, de se laisser surprendre là-dedans. Puis, tu sais, à quelque part, là, il n'y a rien qu'on ne peut pas changer. Fait que si ça ne marche pas, faisons autre chose. Essayons autre chose. Il n'y a rien qui plaît dans le béton figé que votre vie va s'arrêter là. Là. Rien. Fait
que... On ne grandit jamais autant qu'en sortant de sa zone de confort. Puis, Le de se faire un peu violence comme ça, de se mettre dans des zones d'insécurité, ça ne peut que nous amener à grandir. Puis effectivement, même si on se trompe, c'est pas grave, c'est un apprentissage qui ajoute à des structures qui vont devenir de plus en plus fortes. Et de garder une certaine flexibilité. La mission, elle peut évoluer dans le temps. Nos procédures, nos façons de faire, notre persona peut évoluer dans le temps. C'est de rester ouvert à ce que la vie nous amène et surtout d'être lucide là-dedans, d'être à l'affût puis d'être beaucoup à l'écoute, j'imagine, aussi des gens qui nous entourent. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné et qui, selon vous, serait pertinent?
Je te dirais, au final, là, être entrepreneur, ça vient avec un risque. Puis, plus le risque est grand, plus ça peut rapporter, mais il n'y a aucun risque qui ne se gère pas. Avec une bonne planification, un bon plan, si on croit en nous, ben, il faut mettre les actions en branle et ça va rapporter. Nous, on y croyait tellement, ben, on l'a vendu la maison, puis on a tout changé ce qu'il fallait dans notre vie personnelle, même s'il y avait une COVID, même si les banques prêtaient plus à un certain moment donné, on s'est organisé pour que ça fonctionne. Ben, un an plus tard, ça fonctionne. Très bien. Mieux qu'on pensait même. Il faut juste se faire confiance et mettre les actions qui vont avec.
Et Josiane, quel est le plus grand apprentissage que tu as fait après un peu plus d'un an?
Bonne question. Je dirais, moi, ça a vraiment été de trouver une posture d'entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour moi?
Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Ben, c'est définitivement, je dirais que c'est mon identité, c'est qui je suis et c'est ma couleur. Fait que, comment je m'organise pour aligner mes actions en fonction de qui je suis, tout simplement. Mais c'est ça, c'est une des réponses, je dirais, fondamentales qui a été pour moi, là, c'est ma posture d'entrepreneur là-dedans. Comment trouver sa posture, là, je dirais.
C'est excessivement important, c'est très bien dit. Josiane, Steve, merci beaucoup. Comment les gens qui nous écoutent en ce moment, s'ils ont envie d'en savoir plus, s'ils ont envie d'aller de connecter avec vous, quelles sont les meilleures façons de vous rejoindre?
Comme les gens nous écoutent sur LinkedIn, on est très actifs sur LinkedIn, donc vous pouvez venir nous rejoindre directement par nos pages respectives ou la page entreprise. Sinon, on a notre site web, fij.ca, avec nos adresses info sur lesquelles nous rejoindre directement dans les contacts. Merci.
Puis je constate que vous avez des témoignages. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que je discute ça éventuellement sur un épisode, mais c'est tellement, tellement un outil marketing extraordinaire d'aller chercher des témoignages de clients. Et malheureusement, il y a peu de gens qui s'en vont en chercher puis qui les utilisent sur leur site web. Donc, félicitations, entre autres, pour cet aspect-là. Merci beaucoup de votre générosité. Pour ma part, vous pouvez également me rejoindre, évidemment, sur LinkedIn ou encore sur mon site web, mathieuchevalier.com, si vous voulez utiliser la vidéo pour connecter avec vos clients idéaux, pour avoir des vidéos qui vont accueillir les visiteurs de votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Et aussi, justement, parlant de témoignages de clients, c'est quelque chose aussi que je fais d'aller chercher des témoignages de vos clients sous forme de vidéo. Encore une fois, Josiane et Steve, ce fut un grand plaisir de discuter avec vous. J'espère qu'on aura la chance de se rejaser à nouveau bientôt. Merci à tout le monde de votre écoute et à la revoyure.
Merci beaucoup. Merci Mathieu.